s'appelle Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences Publiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous des émissions de Sciences sur France Culture. Comme d'habitude, nous vous invitons à nous adresser vos réflexions et vos commentaires sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Quel est le réel potentiel de l'énergie solaire ? Certes, la météo actuelle ne plaide guère en faveur de l'énergie solaire. Pourtant, imagine-t-on que l'Allemagne bénéficie d'un ensoleillement extraordinairement supérieur au nôtre ? Certainement pas. Et pourtant, la puissance des panneaux photovoltaïques installés outre-Rhin à fin 2007 était 50 fois supérieure à celle dont disposait la France. Et nous étions loin alors de rattraper notre retard, puisqu'au cours de cette même année 2007, la puissance photovoltaïque installée en Allemagne a été 36 fois supérieure à celle qui a été installée en France. Cette situation a conduit le gouvernement, à la suite du Grenelle de l'environnement, à stimuler le développement de l'électricité solaire grâce à des mesures de crédit d'impôt pour les acquéreurs de panneaux solaires et un tarif attractif de rachat de l'électricité produite par EDF. Comme pour démontrer à quel point la France est sous-équipée, le succès de ces mesures a été très important. Au 30 juin 2010, l'État avait enregistré la demande de raccordement au réseau de plus de 3375 mégawatts, soit presque la puissance installée en Allemagne fin 2007, et l'équivalent de plus de deux centrales nucléaires EPR. Au lieu de se réjouir d'un tel succès, démontrant le dynamisme de la filière solaire française, le gouvernement a décrété un moratoire des raccordements en décembre 2010, suivi par une baisse du crédit d'impôt et du tarif de rachat par EDF. Raison invoquée, l'explosion du solaire en France coûte trop cher. Une réaction qui, semble-t-il, n'a pas suscité l'annonce récente concernant le réacteur EPR de Flamanville, un nouveau retard de 2 ans et un quasi-doublement de son coût à 6 milliards d'euros. Dans ce contexte, faut-il douter de la réalité de la volonté de la France d'investir réellement dans l'énergie solaire ? Fin 2008, la France comptait pour 1% des 14 500 mégawatts photovoltaïques installés dans le monde et l'on assiste à une explosion mondiale dans ce domaine avec une progression de 50% en 2009. Dans le monde toujours. Dans un tel contexte, faut-il encore douter de l'efficacité de l'énergie solaire pour la France ? Quel est l'impact du lobby nucléaire, même après Fukushima, sur la politique énergétique française ? Autrement dit, l'État peut-il à la fois financer de nouvelles centrales nucléaires très coûteuses et accompagner le développement d'une filière solaire en France ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio, Marc Benmaraz, qui est président fondateur de Solar Euromed. Nous attendons par téléphone Alain Joffre, qui est président directeur général de Texsol, un bureau indépendant spécialisé dans l'énergie solaire. Et nous avons déjà la présence de Cédric Philibert, analyste senior à l'Agence internationale de l'énergie. Et puis nous écouterons le témoignage enregistré de Franck Le Borgne, directeur de One Network Energy, installateur de systèmes de suivi du soleil pour les centrales photovoltaïques, et qui fait l'actualité puisqu'il a débuté une grève de la faim le 11 juillet. Et selon le Telegram.com, il aurait été hospitalisé hier soir à l'hôpital de Vannes à la suite d'un malaise. Par ailleurs, je précise que nous avons invité EDF Énergie Nouvelle à participer à cette émission, mais malheureusement, aucun invité n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. Je rappelle que nous avions eu les mêmes difficultés lors de notre émission du 24 juin 2011 sur le démantèlement des centrales nucléaires. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com. Cédric Philibert, bonjour.
Bonjour.
Donc il semble que, comme je le disais, on assiste à une véritable explosion mondiale de l'énergie photovoltaïque, sans que d'ailleurs on en parle énormément. Quand on regarde les chiffres que publie l'Agence internationale de l'énergie, on est vraiment impressionné par ce mouvement actuel.
Oui, nous avons vu s'installer donc aujourd'hui maintenant 40 000 mégawatts de photovoltaïque dans le monde, dont presque la moitié en Allemagne. Et dans tous nos scénarios, nous voyons cette forme d'énergie être appelée à se développer très rapidement. De même d'ailleurs que le solaire thermique, qui donne notamment de l'eau chaude et de la chaleur pour le chauffage ou pour les procédés industriels, et le solaire thermodynamique, qui est une autre façon de faire de l'électricité solaire. Nous avons publié il y a un an deux feuilles de route technologiques, à la fois pour le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique à concentration, et nous avons dit à ce moment-là que dans un scénario de modération du changement climatique, vers 2050, ces deux formes d'énergie combinées pouvaient fournir de 20 à 25% de l'électricité mondiale. Je pense que nous allons publier...
Ce qui est plus que le nucléaire actuellement.
Ah oui, 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 tout à fait. Le nucléaire est à 15% à peu près de l'électricité, comme l'hydraulique.
Donc ça deviendrait la première source d'énergie après le pétrole.
Oui, pas le pétrole pour la production de l'électricité, ou malheureusement charbon. Après le charbon qui charbon, est ouais. Encore plus polluant. Nous avons l'intention de publier d'autres études qui vont montrer que si on ne cherche pas le moindre coût, mais si on cherche le plus grand déplacement possible des émissions de CO2 avec un certain coût additionnel, alors on peut aller beaucoup plus loin et techniquement, le solaire peut fournir la moitié de l'électricité mondiale dans un scénario où il y aurait de toute façon beaucoup plus d'électricité parce que cette électricité va déplacer des combustibles fossiles dans des usages directs, le chauffage ou l'industrie par exemple, ou les transports.
On reviendra à toutes ces perspectives. Merci beaucoup. Marc Benmaraz, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez d'obtenir le 5 juillet, donc il y a très peu de temps, un permis de construire pour votre centrale de 12 mégawatts en Corse. De quoi s'agit-il en quelques mots?
Ben écoutez, il s'agit effectivement du premier permis de construire pour une installation solaire thermodynamique. Tout à l'heure, Cédric a expliqué qu'en fait, on parle très souvent en France de photovoltaïque. Hein. En fait, le solaire, c'est pas seulement du photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est une manière de convertir le rayonnement solaire en électricité par des semi-conducteurs. Mais il existe également le solaire thermique qui est utilisé en eau chaude sanitaire. Mais également le solaire thermodynamique. En fait, le solaire thermodynamique, c'est quoi? C'est l'utilisation de concentrateurs qui récupèrent le rayonnement solaire, qui le concentrent. Donc on arrive à obtenir de d'autres températures. C'est aux températures donc de la vapeur, hein, peut-être utilisée à diverses fins. On peut effectivement utiliser le vecteur électricité, donc la convertir par des turbines, mais également dans des pays qui ont besoin d'eau, on peut dessaler l'eau de mer. Dans d'autres endroits, tout à l'heure, on disait qu'on peut utiliser également pour des utilisations de industrielles, mais également, vous comprenez que dans des endroits désertiques qui n'ont pas d'eau, mais il y a des eaux souterraines, cette forme d'énergie peut être utilisée mécaniquement pour pouvoir, par exemple, faire du pompage d'eau, voire même par exemple, du contrôle de température. Donc, vous voyez les différentes utilisations que le solaire thermodynamique peut apporter.
Ce solaire thermodynamique, on était en France parmi les pionniers avec le fameux four solaire d'Odeillo.
Absolument.
Dans les années 1970.
Exactement. Il y a plus de 30 ans, la France a été pionnière dans le monde. Il faut savoir que la première centrale solaire thermodynamique du monde est française, a été française. Elle existe d'ailleurs toujours. Hein. Elle est installée à Témis. Il se trouve effectivement que des considérations d'ordre stratégique par rapport, par exemple, à l'évolution des prix du pétrole, etc., ont fait que cette opération a été abandonnée, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs nos chercheurs, dont je fais effectivement, rendre hommage, hein, les chercheurs, que ce soit du CNRS ou du CEA, ont continué à travailler, ont continué à porter, les couleurs nationales dans ce domaine-là. Entre-temps, un certain nombre d'autres pays ont avancé, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne.
Oui, entre-temps, en France, il faut rappeler qu'on a construit un certain nombre de centrales nucléaires, justement après ces événements des années 1970.
Tout à fait. Et c'est vrai que vous avez dit qu'on a obtenu le premier permis de construire. Et en fait, ça consacre le retour du solaire thermodynamique industriel. Hein, les chercheurs ont travaillé. Et nous, Solaromed, nous sommes une entreprise innovante. Nous travaillons avec ces chercheurs du CNRS comme du CEA pour convertir le savoir-faire, intellectuel, la recherche fondamentale, en recherche appliquée, c'est-à-dire en pilote industriel, en démonstrateur pour témoigner de notre capacité demain en France à exporter ces technologies. Et Albanova en est un exemple.
Alors, Albanova, sera un démonstrateur. Donc en Corse, à quel endroit?
À Ghisonaccio. Ghisonaccio se trouve sur la plaine orientale de la Corse, de l'île
Alors,
de Beauté.
12 mégawatts, on n'a pas forcément une idée de à quoi ça correspond réellement en termes de fourniture d'électricité. Ça peut alimenter combien de foyers?
Ben écoutez, il faut savoir que comparé à ce que font nos amis américains, espagnols et allemands dans différentes régions du monde, 12 mégawatts, c'est très modeste. Hein, c'est un démonstrateur. L'objectif, c'est qu'il soit par la suite extrapolé et installé, je dirais, par 100 ou par 1000 demain dans des pays, effectivement, où il y a du soleil. 12 mégawatts en Corse, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement environ 12 000 foyers. Hein, et d'autre part, ça permettra d'économiser quelques 50 000 tonnes de CO2.
Alors 12 000 foyers en Corse, ça représente quasiment 10% de la population.
Ça représente à peu près, oui, 7 à 8% de la population corse. Oui, tout à fait. C'est modeste, mais c'est significatif.
Ça n'est pas tout à fait négligeable, loin de là. André Joffre, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone.
Bonjour.
Donc j'ai abordé les problèmes économiques que connaît aujourd'hui la filière solaire en France. Vous-même, donc, je rappelle que vous êtes président directeur général de Texsol, qui est un bureau spécialisé dans l'énergie solaire. Comment vous ressentez ce qui se passe, l'actualité dans ce domaine aujourd'hui?
Bon, écoutez, comme l'ont dit mes collègues, c'est vrai qu'il existe plusieurs énergies solaires. En fait, on a tendance aujourd'hui à ne considérer que l'énergie photovoltaïque, mais le solaire thermique. Pour fixer un petit peu les idées, je crois qu'on peut dire que pour une maison individuelle, il suffit de 4 mètres carrés pour produire en moyenne dans la France, en France, 50% de son eau chaude, 70% dans le midi. Pour produire son électricité destinée aux usages spécifiques, c'est-à-dire en fait tout ce qui n'est pas chauffage, hein, il faut à peu près une trentaine de mètres carrés. Il faut 100 mètres carrés si l'on veut couvrir également, compenser, je dirais, la consommation du chauffage électrique. On s'aperçoit donc qu'il y a une multitude d'usages. Et puis, lorsqu'on arrive sur des applications industrielles de forte puissance, effectivement, c'est le domaine du solaire concentré, hein, des centrales thermodynamiques, voire même des centrales photovoltaïques de plus grande puissance. Bon, aujourd'hui, le photovoltaïque, puisque c'est ce qui fait l'actualité, vous avez parlé tout à l'heure de M. Le Borne, effectivement, qui malheureusement est contraint à des cris de désespoir pour pouvoir se faire entendre. Ce que l'on constate, en fait, c'est que les prix des équipements solaires est en train de diminuer de façon extrêmement rapide. Et aujourd'hui, le prix des cellules photovoltaïques, par exemple, a été divisé par 3, par exemple, depuis le moment où on a discuté du Grenelle de l'environnement. C'est pas très vieux, c'était en 2008. Mmh. Donc vous voyez que cette baisse extrêmement rapide qui va s'accentuer encore dans le futur, parce qu'en fait, tout simplement, le photovoltaïque est une technologie, un petit peu une technologie sœur des technologies de l'électronique grand public, hein, des appareils, des puces électroniques, on va dire, pour parler en langage grand public. Et tout simplement, les évolutions, ce sont des secteurs qui investissent beaucoup. Le secteur de l'électronique, par exemple, va investir cette année, en 2011, quelque chose comme 50 milliards de dollars. Donc, évidemment, il y a des progrès considérables qui sont faits en termes de production, d'équipement, de machines pour produire ces équipements. Et le solaire en bénéficie.
Est-ce que c'est pas lié quand même aussi à l'explosion du marché lui-même? Parce qu'on voit que il explose. Il avait déjà explosé peut-être en Allemagne, mais maintenant il y a la Chine qui prend le relais. La Chine étant l'un des producteurs principaux des panneaux solaires eux-mêmes.
Oui, la Chine est un pays important en matière de. Mais il n'y a pas que la Chine. Il y a l'Allemagne, il y a le Japon qui sont des pays extrêmement actifs également. Les États-Unis qui arrivent aujourd'hui avec des entreprises et qui ont dépassé les 1000 mégawatts de production par an. Hein. Des boîtes comme First Solar qui sont extrêmement actives dans ce domaine-là. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable course à l'armement. La plupart des industriels, et c'est vrai, les Chinois sont en première ligne, sont en train d'investir des milliards de dollars tous les ans, non pas pour suivre le marché, mais pour l'anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les capacités de production mondiale sont à peu près deux fois le marché mondial. Alors on peut s'étonner que les industriels continuent à investir. Mais tout simplement, quand on les interroge, ils nous disent on investit parce qu'on attend une explosion du marché, le moment où on aura atteint la parité réseau, c'est-à-dire où il sera plus économique de produire son courant avec son propre toit plutôt que d'acheter au réseau. Alors, s'il y a deux facteurs qui vont jouer dans ce sens, c'est d'une part l'augmentation inexorable du prix de l'électricité. Vous savez qu'en France, on nous a annoncé des augmentations de prix dans les années à venir. Et puis, donc, dans les pays qui sont producteurs aujourd'hui, une baisse du coût des équipements photovoltaïques. Et à un moment donné, si vous voulez, les courbes vont se croiser et il sera donc plus intéressant de produire son courant plutôt que de l'acheter au réseau. Et à ce moment-là, le marché, il devient complètement considérable, quoi. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de tarifs d'achat, il n'y a plus de mécanique réglementée, je dirais, pour développer le solaire. C'est chacun qui va utiliser le solaire, non pas comme un dispositif de production d'énergie, mais comme un dispositif d'économie de l'électricité.
Très bien, on va revenir là-dessus. Cédric Philibert n'a pas l'air complètement convaincu par cette perspective. Mais auparavant, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Franck Leborgne, donc, je rappelle, qui est directeur de One Network Energy, un installateur de systèmes de suivi du soleil pour les centrales photovoltaïques et qui donc a été fait partie des, semble-t-il, nombreuses victimes du moratoire décidé par le gouvernement en décembre. Donc il nous rappelle dans un premier temps le contexte dans lequel les choses se sont produites pour lui.
Au moment où, effectivement, on aurait dû être raccordé, l'État a sorti un moratoire photovoltaïque, donc ce décret a été promulgué le 9 décembre avec rétroactivité au 2 décembre. Le seul problème s'est passé, c'est que ERDF a émis nos droits à produire le 24 novembre, mais a gardé le courrier sous le coude jusqu'au 29 novembre. Et le jour où on a reçu effectivement les courriers, nous sommes tombés dans le moratoire. Donc aujourd'hui, il y a une grande colère de notre part.
Alors oui, donc une colère qui a conduit Franck Leborgne à faire toutes les actions possibles. Il va nous l'expliquer jusqu'à la dernière qui est un peu extrême.
Les actions que j'ai décidées, c'était déjà d'interpeller nos élus, d'interpeller ERDF, d'interpeller tout le monde pour leur demander pourquoi autant d'inégalités et autant d'injustices, surtout. J'ai même reçu aujourd'hui donc à Bercy par le conseiller énergie de Monsieur Besson, qui nous a promis il y a 2 mois de régler la situation, puisqu'apparemment nous n'étions pas les seuls d'ailleurs dans cette situation-là. Et depuis 2 mois, nous n'avons eu aucune nouvelle. Dernièrement, Bercy nous a envoyé les coordonnées de RDF parce qu'il rejette la faute sur RDF, il faut le savoir. Et j'ai contacté le directeur juridique de RDF qui nous a dit « Mais nous, on attend justement les ordres de l'État ». Et on vient de s'apercevoir, en fait, brutalement, que c'est un épisode de patate chaude depuis 6 mois. Et on sait qu'on n'obtiendra jamais, en fait, rien, quoi. Voilà.
D'où votre décision un peu extrême de grève de la faim.
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, moi je me bats pour mes salariés, je me bats pour mon entreprise. On n'est pas des spéculateurs. Ce qu'a fait l'État le 2 décembre est une décision totalement disproportionnée avec des dégâts collatéraux monstrueux qui visaient effectivement à arrêter les profiteurs. Et ce qui est tout à fait louable, puisqu'il y a 2 ans, nous avons déjà interpellé l'État pour leur demander de faire en sorte que les spéculateurs n'aient pas de place dans ce métier. Or, aujourd'hui, il y a les spéculateurs, mais il y a aussi l'industrie du photovoltaïque français, et cette industrie est en train de mourir. Il y a eu plus de 10 000 licenciements aujourd'hui, au moment où je vous parle, depuis le mois de décembre, dans une filière qui comptait 20 000 à 25 000 personnes. Donc, c'est l'équivalent de 2 ou 3 usines Renault de Flins qu'on ferme, comme ça, brutalement, d'un coup. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le public ne s'émeut pas de la situation et qu'on meurt tout seul dans notre coin, quoi.
Alors voilà, c'était donc le témoignage de Franck Leborgne, qui donc, je le rappelle, est directeur de One Network Energy et qui s'est engagé dans une grève de la faim à partir du lundi 11 juillet et qui donc aurait été admis à l'hôpital de Vannes hier soir après un malaise. Alors peut-être une réaction à ces propos et un petit peu à ce sentiment qu'ont les entreprises comme celle de Monsieur Leborgne d'avoir été victime du moratoire décidé par le gouvernement. Cédric Philibert.
Bon, alors on va partir d'un point de vue opposé pour le goût de la discussion. Il n'est pas anormal de réduire les tarifs quand les coûts d'installation s'effondrent. Et je vous suis tout à fait quand vous dites c'est le développement qui a fait tomber les coûts. Ce sont essentiellement les effets d'échelle et d'apprentissage dans la production en masse de panneaux solaires qui fait tomber les coûts. À partir de là, il est normal que les gouvernements qui ont mis au point des rémunérations assez élevées pour démarrer l'industrie, démarrer l'activité d'installation, etc.
Enfin, les crédits d'impôt, c'est un pourcentage. Donc, si les prix baissent, le pourcentage de...
Oui, mais les tarifs d'achat,
aussi.
les tarifs d'achat,
non. C'est pas le cas.
Donc, il est assez normal ces tarifs d'achat soient modifiés. En principe, ils sont pas modifiés pour ce qui est déjà installé. Là, c'est un tarif d'achat qui est garanti pour 15 ou 20 ans, ça dépend des pays. Mais pour les nouvelles installations, il est normal d'accompagner la baisse des coûts d'installation par une baisse des tarifs d'achat. Par ailleurs, il n'est pas anormal en soi que les gouvernements disent j'ai choisi un objectif, en France c'est 5000 mégawatts, en Allemagne c'est 50 000 mégawatts, 10 fois plus, mais quel que soit l'objectif que je me suis donné pour 2020, je veux arriver à peu près à ça et pas 10 fois moins ou 10 fois plus. Or, quand on a comme seul outil de réglage le tarif d'achat, c'est très difficile de prévoir quelle quantité de modules vont être installés. Pourquoi ? Parce que l'offre est gigantesque, c'est tous les toits de France, c'est les économies des particuliers, c'est un système bancaire à peu près efficace pour l'instant.
On parle de ces spéculateurs.
Je sais pas
la part de spéculation.
Mais je ne sais pas. C'est quoi la spéculation ?
Nathalie Kosciusko-Morizet y a fait allusion également. Quelle est cette activité de spéculation qui peut se greffer sur le développement de l'énergie solaire ?
Honnêtement, je ne sais pas définir la spéculation mauvaise et quelqu'un qui fait un investissement en se disant « je vais gagner un peu d'argent avec ça, ça va me donner, je vais mettre, plutôt que d'investir dans des actions qui peuvent s'effondrer demain, je vais faire un achat sur mon toit et je vais avoir un tarif d'achat garanti pendant 15 ans, ça va me payer ma retraite ». Bon, moi je ne sais pas exactement toujours faire la différence. Il y a sûrement des intermédiaires qui prennent des marges élevées. Ce qui est sûr, c'est que quand le tarif d'achat ne correspond plus au prix d'installation, il y a des marges élevées dans le système. Alors, qui les accapare ou qui ne les accapare pas, c'est une autre histoire. Il est normal dans ces conditions que le gouvernement cherche à diminuer cette marge et à donner un profit raisonnable aux investisseurs, mais pas un profit excessif. Deuxièmement, pour essayer de maîtriser la croissance, c'est très difficile quand on n'a que le tarif d'achat. Et on risque, et l'exemple français le prouve malheureusement, on risque en agissant que sur le tarif d'achat, ou principalement sur le tarif d'achat, de passer un peu d'un extrême dans l'autre. On passe d'une rémunération trop généreuse où ça va trop vite à un système où tout se bloque. Et c'est très difficile. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est vraiment difficile. Mais c'est sûr qu'il faut que les gouvernements apprennent à réagir avec modération pour éviter de susciter des espoirs et de les décevoir cruellement ensuite, comme le montre le témoignage que vous nous avez rapporté.
Alors, il ne s'agit pas simplement de changement de tarif, là, il s'agit de moratoires qui ont un peu bloqué la mécanique. Alain Joffre, quelle est votre réaction par rapport à ce témoignage de M. Le Borgne ?
Oui, écoutez, François Le Borgne, c'est très poignant ce qu'il dit, parce que c'est quelqu'un qui est très sensé, c'est un marin, c'est un homme qui a les pieds sur terre, si j'ose dire, et qui a cru vraiment à la parole du gouvernement, qui avait dit « investissez, et nous on accompagnera, on investira autant dans le solaire qu'on investit dans le nucléaire ». En fait, ce qui s'est passé, nous, dès 2009, notre association professionnelle, Enerplan, avait déclaré qu'il fallait baisser les tarifs, au moment où, d'ailleurs, l'Allemagne était en train de baisser. On n'a pas été entendu. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, si derrière les pouvoirs publics, derrière la volonté des pouvoirs publics, il n'y avait pas un côté un peu machiavélique de souhaiter qu'une bulle spéculative se mette en place pour pouvoir ensuite mieux tailler dans le vif, je dirais, et prononcer ce moratoire qu'on a connu à la fin de l'année dernière. Parce que, écoutez, c'est vrai que on voit des opérateurs comme M. Le Borgne qui avait fait une petite installation de quelques mégawatts. Mais il faut savoir quand même qu'il y avait des opérateurs qui avaient développé des milliers de mégawatts. Il y a des opérateurs qui avaient 1300, 1400 mégawatts en file d'attente. Donc là, évidemment, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Ce sont des entreprises qui sont souvent des filiales de sociétés nationales. Donc on ne peut pas penser que tout cela s'est développé sans l'avis du gouvernement, sans l'accord du gouvernement. Et donc aujourd'hui, les professionnels, notamment les PME, le tissu des PME est vraiment très contrit parce que on a vraiment l'impression d'avoir été liquidé. Alors évidemment, vous imaginez bien, ce sont les PME qui sont les plus impactés dans cette affaire-là. Ce ne sont pas les grands groupes qui eux s'en sortiront toujours. On a moyen de rebondir. Aujourd'hui, vraiment, on est très très en colère en fait dans ce métier parce que on a le sentiment d'avoir été... Alors, on nous a raconté dans les cabinets qu'on est allé voir, etc., des cabinets ministériels, on nous a dit, vous comprenez, on ne peut pas faire le tri entre les spéculateurs et puis les projets de gens sérieux qui voulaient vraiment développer la filière. Et donc, on a dit, voilà, bien, OK, on sait, il y aura des pertes d'emplois, c'est une vision comme ça, on le sait, on le prend en considération, mais on n'a pas grand-chose à faire. Et ça, c'est un peu dommage, parce que vous savez, créer une filière, moi, je suis en région, Je participe au pôle de compétitivité, à des activités, dans des activités syndicales et, ou professionnelles avec les chambres de commerce. C'est très difficile de créer une filière nouvelle. Quand on veut développer, former des artisans, des installateurs, ça prend des mois, des années. Et ce travail qu'on a fait depuis 2008, en gros, aujourd'hui, il est à jeter parce que tous les gens quittent le secteur. Et comme l'a dit M. Le Borgne, il y a énormément d'emplois qui ont été perdus. Donc, franchement, bon, ok, ça a été mal mené, mais j'ai l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens aujourd'hui non plus avec le nouveau cadre qui est en train de se mettre en place. Parce qu'à l'inverse, là, si vous voulez, vous savez que depuis hier, il y a encore une baisse de tarifs de 9% pour les installations collectives et 7% pour les particuliers.
Absolument.
Ça va encore rajouter, si vous voulez, à un marché qui était complètement éteint. Hein. Aujourd'hui, chez les particuliers, par exemple, alors que les tarifs ont baissé, mais pas de façon très importante, on a vraiment un marché qui est aujourd'hui à 30% de ce qu'il était l'année dernière. Donc on voit bien que ce sont des sujets, si vous voulez, qui sont extrêmement délicats. Il faut faire très attention. Je rejoins Cédric Philibert quand il dit qu'il faut, mettre beaucoup de doigté quand on modifie des politiques publiques, parce que c'est très difficile. Et je crois que là, à mon sens, je pense que les régions, par exemple, auraient dû être davantage associées dans la conduite de cette affaire-là. C'était quelque chose qui a été très centralisé dans la gestion. Or, les énergies renouvelables, ce sont des énergies décentralisées, a priori. Et il faut absolument que, territoire par territoire, on puisse avoir une politique concertée avec les pouvoirs publics.
On va y revenir.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture et nous débattons aujourd'hui de la question « Quel est le réel potentiel de l'énergie solaire ?» avec nos invités Marc Benmaraz, président fondateur de Solar Euromed, André Joffre, président directeur général de Texsol, Cédric Philibert, analyste à l'Agence internationale de l'énergie, et nous avons écouté le témoignage enregistré de Franck Le Borgne, directeur de One Network Energy, qui est actuellement en grève de la faim. Vous pouvez, comme d'habitude, nous adresser vos réflexions et vos commentaires sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com. Marc Benmaraz, peut-être une réaction justement aussi de votre part hein, au propos de Franck Le Borgne et à sa situation particulière donc de PME qui est un peu victime, peut-être de la brutalité tout de même de ce moratoire décidé en décembre 2010.
Mais écoutez, je suis à peu près dans le même cas que Monsieur Le Borgne. Je suis également responsable d'une PME, à peu près la même que ce monsieur. On est une quinzaine de personnes qui essayons d'œuvrer dans un secteur un peu différent, c'est toujours le solaire, mais le solaire thermodynamique, à concentration. Je vais vous répondre à la fois en tant qu'entrepreneur et, j'allais dire, en tant que citoyen. Voilà. En tant que chef d'entreprise, vous avez tout à l'heure noté que nous avons obtenu le permis de construire, à purger. Dans le contexte normal, quand nous avions conçu ce projet, nous aurions déjà démarré au mois de juillet, la construction de cette centrale. Voilà. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas la démarrer pour, effectivement, on attend d'avoir une idée plus claire sur l'accompagnement du gouvernement de notre effort de réaliser cette centrale pour voir à quel tarif on va vendre cette électricité, etc. Mais je vais revenir dessus. De l'autre côté, je suis également un citoyen français. Et tout à l'heure, Cédric a dit qu'il y a une déconnexion entre les tarifs tels qu'ils existaient et l'évolution de l'industrie photovoltaïque qui permettait effectivement une réduction par deux, par trois, tel que d'ailleurs André Joffre l'a dit.
Donc je rappelle pour les auditeurs, voilà. Le fait que le prix des panneaux solaires a beaucoup baissé, finalement conduit à réduire le prix de rachat par EDF du courant électrique, puisque les installations sont amortissables plus rapidement, coûtent moins cher à l'achat, etc. Excusez-moi, allez-y.
Oui, mais juste un petit peu pour préciser, en fait cette application se fait essentiellement sur le photovoltaïque installé en toiture ou dans les bâtiments. Pour les centrales au sol, dont M. Le Borgne est porteur d'un projet de ce type, de type photovoltaïque, nous sommes une centrale au sol de type thermodynamique.
C'est-à-dire que vous n'utilisez pas de capteur photovoltaïque.
Non, tout à fait. Mais j'essayais d'expliquer un petit peu quelle est la position du citoyen. La position, en ce qui me concerne en tant que citoyen, c'est qu'effectivement, Aujourd'hui, ces incentives, ces promotions du tarif, elle est grosso modo payée par l'économie nationale, il est payé par nos impôts, par la valeur ajoutée de tous. Il est clair aujourd'hui que nous souhaitons, nous, en tant qu'industriels, que cet effort national soit plutôt porté vers une valeur ajoutée en France. Et il est clair également que, par le passé, l'explosion du photovoltaïque a fait que, globalement, les industriels qui fournissaient ces semi-conducteurs étaient essentiellement des Chinois, des Allemands, des Indiens, etc., et quelques Français qui commençaient à naître à Grenoble ou dans d'autres régions de France. Et aujourd'hui, en tant que citoyen, je vois que le législateur a décidé, en fait, d'orienter de manière, peut-être, on est impacté, on le voit de manière un peu brusque à la situation. Mais de l'autre côté, le législateur a décidé de différencier les choses. D'un côté, il a dit, premièrement, il faut que l'on fasse en sorte qu'en France, qu'il y ait une industrie de ce solaire, qu'elle soit photovoltaïque ou qu'elle soit thermodynamique. Et il a décidé de mettre en œuvre les investissements d'avenir pour pouvoir accompagner les développeurs de technologies. Nous en sommes un, mais il y en a d'autres en France, qu'à la fois dans le domaine du photovoltaïque qu'en domaine du solaire thermodynamique. Donc il y a cette promotion de la technologie. De l'autre côté, Cédric l'a souligné tout à l'heure en disant que l'explosion des mégawatts a fait que le législateur ou le régulateur a décidé de mettre en œuvre un système de régulation. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de réguler en maîtrisant à la fois la quantité des mégawatts et la qualité de ces mégawatts, c'est-à-dire en termes différenciés entre technologie, photovoltaïque, thermodynamique, etc. De l'autre côté, on ne peut que louer cette initiative. Bien que je sois le premier impacté, puisque je ne peux pas commencer la construction de ma centrale, puisque je n'ai pas encore le cadre législatif pour me permettre de le faire, j'attends à ce jour la promulgation d'un appel d'offres de centrale au sol, dans lequel on va inclure notre projet Albanova, pour lequel on a le permis de construire, de manière à ce qu'on nous autorise un tarif, et on peut effectivement après, une fois qu'il sera accepté, de pouvoir le réaliser.
Donc ça veut dire depuis le moratoire en décembre, donc nous sommes en juillet, les choses ne se sont pas clarifiées du côté législatif. C'est ça que vous nous dites?
Ce que je suis en train de dire, c'est que le législateur a décidé de mettre deux processus d'accompagnement qui sont à la fois la promotion de la technologie pour que des inventeurs, des créateurs de technologie se mettent en œuvre et mettent en place de la technologie. De l'autre côté, il y a effectivement la décision de faire des appels d'offres. Et aujourd'hui, l'appel d'offres n'est pas encore sorti.
Alors, à vous entendre, on a l'impression que l'énergie solaire est donc une activité ou une technologie qui vient d'être inventée et qu'on se met en ordre de bataille pour essayer de la développer. Alors qu'en réalité, s'il y a un problème aujourd'hui de balance commerciale, il faut dire les choses peut-être directement en matière de panneaux solaires, puisque 90% de la production, enfin du moins des achats que nous faisons, vient de Chine dans ce domaine. Eh bien, c'est aussi parce que nous avons une filière qui n'a pas été développée dans les décennies précédentes et qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu en décalage. C'est-à-dire qu'on veut mettre un peu la charrue avant les bœufs, on veut développer une filière sans avoir les fournisseurs de panneaux. Et du coup, ça nous coûte cher à l'achat à l'étranger, Cédric Philibert. Est-ce qu'il n'y a pas un problème un petit peu aussi de timing de ce type?
Oui, mais moi, je veux pas trop commenter sur la politique de chacun des pays et son souhait de développer sa propre industrie.
C'est le sujet dont on parle, en fait.
Ben, oui, j'entends bien. Mais j'essaye de tracer pour tout le monde une perspective un peu plus globale, si je peux me permettre. Si vous voulez, il y a les pays, c'est sûr, les pays qui investiront pour développer leur propre industrie, d'autres pays qui seront un peu plus clients.
Alors, je vais poser ma question autrement. Oui. Comment on peut avoir un développement d'une industrie de production des panneaux solaires si on prend des mesures qui cassent le développement de cette filière?
c'est sûr que s'il n'y a pas de marché, il n'y aura pas de producteurs. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'il y aura un marché qu'il y aura forcément des producteurs nationaux.
Certes.
Voilà. Et ça, c'est un domaine dans, sur lequel, personnellement, en tant qu'agence de l'international de l'énergie, je ne veux pas trop rentrer.
Non, je comprends.
Ce qui m'intéresse davantage, c'est d'essayer de montrer, par exemple, la complémentarité des techniques. Marc Benmaraz représente l'industrie du solaire thermodynamique. On parle beaucoup en France du photovoltaïque. C'est vrai qu'en France, on a plus de potentiel pour faire du photovoltaïque. Dans le monde, c'est peut-être différent. Dans le monde, les besoins d'énergie vont venir surtout dans les pays en développement. Ils sont en général bien ensoleillés. Quand ils sont bien ensoleillés et un peu arides, le thermodynamique a toute sa place et il a surtout un avantage extraordinaire.
Alors j'entends bien, excusez-moi, je vous coupe là parce que j'entends bien ce raisonnement. Mais comment expliquer que l'Allemagne, alors, a 50 fois plus de panneaux photovoltaïques installés si la caractéristique d'ensoleillement est si déterminante?
Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix d'avoir beaucoup de renouvelables et ce choix ne peut être qu'accentué.
Ça veut dire qu'en Allemagne, c'est absolument pas rentable ce que les panneaux installés. Ça veut dire quoi?
Écoutez, on va dire où ils sont rentables aujourd'hui. Ils seraient rentables au sud de Rome si on construisait le photovoltaïque en Italie au prix où on le construit en Allemagne aujourd'hui. C'est-à-dire, l'Allemagne a quand même aujourd'hui pour le photovoltaïque les tarifs les plus bas. Malgré son faible ensoleillement. Et par rapport à l'électricité du réseau, si on construisait vraiment le photovoltaïque en Italie au prix où on le construit aujourd'hui en Allemagne, on serait rentable par rapport à l'électricité du réseau. Entre autres parce qu'une partie encore de la production électrique en Italie vient du pétrole. Et ça, c'est un problème plus général dans le monde, notamment dans les pays exportateurs de pétrole. Alors qu'on a un soleil de plomb, on continue à brûler des quantités massives de pétrole qu'on pourrait exporter à un très bon prix aujourd'hui, et on le brûle, alors que là, même pour la production de brut dans les centrales, au sol, en grande quantité, on serait moins cher aujourd'hui avec du thermodynamique ou du photovoltaïque. Donc là, il y a des zones de compétitivité. André Joffre a raison. On arrive dans des zones de compétitivité aujourd'hui, dans certains cas, mais c'est pas encore généralisé. C'est pas encore le cas en Allemagne. C'est pas encore le cas en France.
André Joffre, sur cette question de développement de la filière en France, on sent bien qu'il y a eu un mouvement, visiblement, qui a eu trop de succès après un très vaste traversée du désert pendant une trentaine d'années. Donc, comment aujourd'hui sortir de cette situation?
Oui, écoutez, je crois qu'il ne faut pas se cacher son petit doigt. Bon, on a une concurrence très, très forte en ce moment entre l'énergie nucléaire et l'énergie solaire. L'énergie solaire, on nous a laissé faire tant que ça représentait des quantités quasi négligeables. Et dès l'instant où on a vu le marché s'envoler en Allemagne pour atteindre des volumes importants, l'an dernier, par exemple, l'Allemagne a installé autour de 8 000 de mégawatts de panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que la puissance totale en France, tout nucléaire compris, c'est de l'ordre de 100 000 de mégawatts. Donc, vous voyez, on est dans des ordres de grandeur qui c'est d'être anecdotique. Là,
hein, oui, qui se rapproche, enfin, on rentre voilà. dans des choses
donc,
qui se comparent.
Donc, en fait, ce qui s'est passé en France, c'est que le lobby nucléaire, pour ne pas le nommer, a été extrêmement hostile au développement du solaire. Alors, les arguments, on les connaît tous, hein, c'est de dire le solaire, c'est beaucoup plus cher que le nucléaire, ce qui est vrai, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est une technologie qui n'est pas française parce qu'on n'a pas développé les entreprises françaises qui étaient sur le secteur. Il faut voir qu'une entreprise comme Photowatt, par exemple, qui est en difficulté, était une entreprise qui était comptée dans le top 10 il y a encore quelques années. Hein. Et donc, on a une opposition assez forte, si vous voulez, qui a été engagée aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien expliquer et faire comprendre à nos concitoyens, c'est que le nucléaire ne doit pas être le tout nucléaire. Il faut laisser la place aux énergies renouvelables se développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on a des taux de pénétration de 80%, par exemple, pour le nucléaire, il est bien évident que si on reconduit des centrales, on les rénove pour les reconduire pour 30 ans de plus, bien, il est bien évident que plus on fera de solaire, plus on fera d'éolien, eh bien, on va réduire la part de marché, je vais dire, du nucléaire. Et à ce moment-là, tout point de part de marché perdu, c'est 250 millions de moins dans les bénéfices des compagnies électriques. Donc, on voit bien que la compétition, elle existe, la concurrence, elle est très réelle. Ça, c'est une vision purement énergétique des choses et instantanée, et que si on se déplace dans le futur, je crois qu'il y a un ancien Premier ministre qui a déclaré l'autre jour sur une radio de vos confrères que le fait de ne pas développer le solaire en France aujourd'hui, ça allait entraîner un différentiel de croissance entre la France et l'Allemagne de l'ordre de 1%. Alors ça peut paraître considérable comme ça, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le solaire, si vous voulez, va devenir une énergie majeure. Nous n'en sommes qu'aux prémices aujourd'hui.
Alors ça, c'est quand même quelque chose que justement, on n'entendait pas beaucoup il y a quelques années. On pensait que, surtout en France hein, apparemment, que le solaire était condamné à rester une énergie mineure, d'appoint, totalement assez anecdotique, Marc Benmaraz. Mais le problème, semble-t-il, en France, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie un petit peu entre le solaire et le nucléaire. Est-ce qu'on peut être à la fois le pays du nucléaire et développer sérieusement et avec une volonté de pérennité une filière solaire ?
Je crois que le gouvernement, quand il a fallu lancer, quand il a fallu lancer la filière nucléaire, le gouvernement a massivement investi dans la recherche. Dans la recherche appliquée.
Donc après la guerre, donc dans les années 50.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est une opportunité formidable pour notre pays de devenir le pays également des énergies renouvelables, et notamment, pas seulement le solaire, l'éolien également, et d'autres formes d'énergie hydraulique, géotechnique, etc., doivent être développées. C'est une opportunité formidable pour notre pays de rentrer dans la course industrielle des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Je crois que le gouvernement, me semble-t-il, c'est un point de vue personnel, se doit d'investir massivement dans le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique, de manière à ce que les entreprises françaises dans ce domaine-là, d'abord, pour certains, il faut les créer, donc il faut un marché intérieur, il faut un accompagnement pour que ces entreprises deviennent et avec le marché français, existent et d'autre part, développent leurs références et permettent de devenir par la suite des champions mondiaux dans ce domaine-là. Je me rappelle, j'étais à la visite de M. Sarkozy au commissariat à l'énergie atomique le 9 juin, il y a 2 ans, quand il a inauguré le site de Chambéry. Il a dit « Je serai le président ». Ce n'est pas seulement le commissariat de l'énergie atomique, il a rajouté « et aux énergies alternatives ». Il a dit « je serai et le président du nucléaire et le président du solaire ». Ce que nous, industriels, en attend, c'est que également, je dirais, ça se traduise dans les faits.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question « Quel est le réel potentiel de l'énergie solaire ?» avec nos invités Marc Benmaraz, président fondateur de Solar Euromed, André Joffre, président directeur général de Texsol, Cédric Philibert, analyste à l'Agence internationale de l'énergie, et nous avons écouté le témoignage de Franck Leborne, directeur de One Network Energy, actuellement en grève de la faim. Cédric Philibert, je vous ai coupé la parole, vous étiez en train de la prendre.
Ben voilà, je crois qu'il faut regarder les enjeux planétaires. L'enjeu planétaire, c'est de maîtriser l'effet de serre tout en donnant de l'énergie à tout le monde. Dans tous les scénarios de l'AIE, y compris ceux qui sont basés sur la prolongation des tendances actuelles, on a en 2030 et en 2050 finalement beaucoup plus d'énergie d'origine renouvelable et d'électricité d'origine renouvelable que nous avons d'électricité d'origine nucléaire. Le nucléaire, c'est aujourd'hui à peu près autant d'électricité que l'hydraulique. Dans nos scénarios, on a autant
d'éolien au niveau mondial.
Au niveau mondial.
Parce qu'en France, c'est pas du tout le cas.
Non, dans le monde. Dans nos scénarios, on a autant d'éolien que d'hydraulique et autant de solaire que d'éolien et donc que d'hydraulique. Donc, si vous voulez, ces trois énergies ensemble font forcément au moins 3 fois plus que le nucléaire.
Donc, parlait beaucoup, là, il faudrait évacuer ou du moins traiter une question qui est souvent abordée au niveau du solaire, c'est les émissions de CO2. On dit finalement les panneaux photovoltaïques génèrent beaucoup de CO2 lors de leur production et que finalement ça n'est pas une solution aussi excellente pour le réchauffement climatique que ne l'est le nucléaire.
Alors les bilans sont variables. Effectivement, si vous produisez des panneaux photovoltaïques en Chine avec une électricité essentiellement ex-charbon, et que vous les installez dans un pays qui n'a pratiquement pas d'émissions de CO2 dans sa production d'électricité. La France en a pas beaucoup parce qu'elle a beaucoup de nucléaire hydraulique. La Norvège ou l'Islande en ont pas du tout. Si vous installez des panneaux photovoltaïques là, le bilan
Des panneaux photovoltaïques chinois, vous l'avez précisé.
Voilà, fabriqués en Chine avec de l'électricité ex-charbon, bah, vous allez effectivement avoir un bilan du berceau à la tombe qui va pas être très bon puisque vous allez pas déplacer des émissions de CO2 alors que vous en aurez créé à la production de vos panneaux. Mais c'est quand même pas le cas général, si vous voulez. En règle générale, vous avez les énergies fossiles qui font 80% de l'énergie dans le monde et donc vous allez, dans beaucoup de pays, déplacer une électricité ex-fossile, ex-charbon en Allemagne, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, au Maroc, aux États-Unis, en Pologne et beaucoup d'autres. Et vous allez de plus en plus produire ces panneaux photovoltaïques avec une électricité qui elle-même va être de plus en plus d'origine renouvelable. Donc vous avez un bilan qui ne va cesser de s'améliorer, qui globalement, dans la moyenne, est aujourd'hui très positif. C'est-à-dire que vous avez un remboursement des émissions de CO2 en 2 ans ou 1 an à 2 ans selon les filières. Et ce bilan ne va cesser de s'améliorer au fur et à mesure que les renouvelables vont progresser. Mais évidemment, on peut toujours isoler un cas d'un panneau qui va, in fine, produire un peu plus de CO2 qu'il n'en aura évité s'il est mal placé, mal construit, si j'ose dire.
Alors, une autre critique qui arrive souvent sur le tapis lorsqu'on parle de solaire, André Joffre, c'est la question du rendement réputé faible, autour de 15% des panneaux photovoltaïques. Est-ce que ce rendement est une fatalité ou est-ce qu'il augmente et a-t-il un potentiel à l'avenir pour être encore supérieur ?
Oui, écoutez, il augmente bien entendu. Il augmente régulièrement de l'ordre de 0,5% par an, à peu près en moyenne, si on prend le marché mondial. Donc ça progresse effectivement et on voit aujourd'hui apparaître des produits assez innovants. Je pense par exemple aux produits développés par la société grenobloise Soitec qui fait de la concentration sur des panneaux photovoltaïques qui permet d'avoir des rendements encore beaucoup plus élevés en concentrant le soleil 500 fois par exemple sur des cellules. Alors des cellules qui ne sont pas de même nature que les cellules qu'on utilise dans des panneaux photovoltaïques mais qui sont des cellules solaires tout de même. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il existe aujourd'hui en France une industrie du solaire, hein, parce qu'on a tendance à considérer que tous les panneaux viennent de Chine. En fait, c'est assez faux, puisqu'il y a une multitude d'entrepreneurs qui sont installés un peu partout dans toutes les régions françaises pour encapsuler des panneaux solaires. Alors, les cellules ne sont pas encore faites en totalité en France, bien qu'il existe un fabricant assez photowatt. Mais il y a de nouveaux projets qui sont en train de naître. Hier même, une entreprise MPO a été labellisée par les investissements d'avenir pour bénéficier de fonds pour créer une unité de production de cellules en Mayenne. Et on voit donc que se structure aujourd'hui un ensemble d'entrepreneurs qui d'ailleurs viennent de délivrer, de prendre une marque collective qui va être la marque en fait des produits fabriqués en France. Et donc il y aura des degrés dans cette marque, soit ils seront encapsulés, soit ils seront fabriqués en totalité en France. Alors ces éléments-là, je pense que ce sera important pour notamment juger peut-être les appels d'offres si cela est retenu comme un critère de sélectivité.
Ce sont quand même des PME essentiellement. C'est vrai.
Ce sont des PME, mais si vous voulez, les PME, il faut pas en dire du mal.
Non, mais je veux dire, ça n'a pas, n'ont pas forcément le même potentiel et la même solidité aussi qu'une entreprise plus grosse.
Oui, et si je vous parle de QCell, enfin, toutes les grosses boîtes allemandes qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, qui sont des entreprises mondiales en matière de solaire, étaient toutes des start-up dans les années 2000.
Oui, sauf que malheureusement, ou heureusement pour les Allemands, il y a un potentiel de transformation des PME en moyennes et grandes entreprises en Allemagne qui n'existe pas forcément en France. Marc Benmaraz voulait intervenir.
Oui, je voulais juste effectivement intervenir en rappelant que il faut le solaire, qu'il soit photovoltaïque ou thermodynamique, il faut le voir dans une vision dynamique. Il faut voir le solaire aujourd'hui comme on voit la première Ford quand elle est sortie de l'usine de Détroit. Elle n'a pas du tout aujourd'hui la voiture de série d'aujourd'hui. Elle a été travaillée. Il faut voir la dynamique qu'il y a dans le solaire. Ce que disait tout à l'heure André Joffre, c'est qu'aujourd'hui, dans le photovoltaïque, il y a effectivement une dynamique d'amélioration des processus de fabrication. Nous-mêmes, dans le solaire thermodynamique, Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, le premier développement qu'on a fait en France, c'était une centrale qu'on appelait Solena, en haute, dans les Alpes. Et nous avons voulu, en fait, recréer en France la technologie américaine et allemande. Nous sommes très rapidement rendus compte, en cours de développement, que les fluides qui étaient utilisés, les matériaux qui étaient utilisés, avaient un impact environnemental extrêmement négatif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a profité du fait qu'on était derrière. C'est-à-dire de ne pas faire les mêmes erreurs. Et donc, aujourd'hui, SolarOmed a orienté d'autres collègues, Areva, CNIM, etc., pour que nous nous orientons en France, et profitant de notre retard, j'allais dire, pour qu'on puisse inventer des technologies indemnes de cet impact environnemental. Aujourd'hui, nous faisons de la génération directe de vapeur en n'utilisant que de l'eau. Et nous, par exemple, en solaire thermodynamique, aujourd'hui, l'impact environnemental, il est quasi nul. On n'utilise pas d'eau non plus que pour... on utilise le refroidissement par air, etc. Voilà, un petit peu les développements et la dynamique dans laquelle il faut voir le solaire.
Cédric Philibert.
Oui, je crois qu'il faudrait parler d'une autre limite qu'on prête souvent au solaire et qui est, au fond, la variabilité. Hein, la variabilité météorologique, on l'a bien vu cette semaine, alors qu'en été, en principe, on a du soleil, on a eu une assez mauvaise semaine. La variabilité habituelle, saisonnière.
Voilà, de préciser le chiffre que je donnais au début, puisque avant l'émission, vous m'aviez repris là-dessus. Et effectivement, quand on parle de 2 EPR... l'équivalent de 2 EPR pour ce qui était des demandes enregistrées par l'État, c'est-à-dire 3375 mégawatts fin juin 2010, ça ne fait pas exactement
en production annuelle. Non, bien sûr.
Alors, quel est le ratio qu'il faut appliquer?
Si vous voulez, le photovoltaïque en France, c'est 1000 kWh par kilowatt par an, alors que ce qu'on appelle les centrales de base, charbon ou nucléaire, ça peut être 6000 ou 7000 heures de fonctionnement, donc 7000 kWh par kilowatt et par an. Et c'est là, d'ailleurs, où le solaire thermodynamique a une carte à jouer au plan mondial qui est très importante, parce que on peut stocker la chaleur avant de produire l'électricité. Et c'est un énorme avantage parce qu'on peut aujourd'hui déplacer le moment de la production pour mieux rencontrer la pointe de demande qui, dans beaucoup de pays en développement, se situe à la tombée de la nuit. Donc, au lieu de produire au moment où il y a du soleil, on va stocker la chaleur toute la journée, puis on va commencer à produire le soir, quand on en a vraiment besoin, quand on va déplacer de l'électricité qui vient des moteurs diesel et qui coûte horriblement cher. On va faire ça en Inde, on va faire ça au Maroc, on va faire ça en Afrique du Sud. Bon, et puis, on peut aussi aller plus loin et stocker un excédent dans la journée, produire quand même de l'électricité dans la journée, mais stocker un excédent et produire la nuit et toute la nuit si on veut. Donc, faire du fonctionnement en base. Et on a aujourd'hui une centrale dans le monde qui est exactement la technologie qu'on avait à Témis il y a 25 ans, qui s'appelle Gema Solar, qui est en Espagne et qui a commencé depuis un mois à produire nuit et jour de l'électricité. Donc ça permet de franchir les limites dues à la variabilité.
Marc Benmaras, comment stockez-vous votre énergie avec l'énergie solaire thermodynamique?
Eh bien, écoutez, ce qu'on on a fait, c'est qu'effectivement on a identifié qu'il y avait effectivement quelques limites en matière d'impact sur l'environnement de ces sels. Donc on a décidé de ne pas les utiliser et nous utilisons aujourd'hui des technologies de stockage adaptées en fait à la génération directe de vapeur, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors soit ça dépend du type de stockage que l'on veut, soit de petite durée, soit de plus longue durée. Quand on veut stocker pour des petites durées, du style par exemple fournir une énergie pilotable pendant les heures d'ensoleillement, et qui s'abstient, par exemple, aujourd'hui, on a un jour qui est nuageux, donc quand il y a des nuages, etc., donc il faut effectivement avoir la capacité de stocker pour pouvoir redonner de l'énergie quand il y a des nuages, on a développé une technologie tout à fait innovante à base d'un cycle qu'on appelle le cycle route, pour les thermodynamiciens, ils reconnaîtront la chose, et qui est à base, en fait, seulement d'eau et de vapeur. Ça, c'est pour les petites dimensions et pour des temps relativement modestes. Maintenant, pour de plus longues durées, et nous allons être aidés dans ce domaine-là par les investissements d'avenir, nous avons développé une technologie particulièrement innovante au niveau mondial qui utilise une céramique bas coût, hein, qu'on travaille avec nos amis à la fois du CEA et également une entreprise issue d'un brevet du CEA qui permet de recycler l'amiante, etc., en céramique de très très bas coût. Et nous stockons, si vous voulez, l'énergie dans cette céramique bas coût Et d'autre part, on a développé des matériaux à changement de phase qui permettent, quand on est en chauffe et en surchauffe, d'utiliser la chaleur sensible de la céramique, et quand on est en changement d'état, d'utiliser cette technologie de changement d'état.
Alors à la Joffre, est-ce que l'avenir n'est pas aussi dans la combinaison des énergies? C'est-à-dire qu'on raisonne très facilement en mono-énergie, en disant bah, le solaire, quand il n'y a pas de soleil ou quand il y a des nuages, ça fonctionne pas. En revanche, quand il y a des nuages, il peut y avoir du vent, c'est souvent le cas. Et puis il y a aussi la géothermie qui apporte une espèce de base d'énergie assez constante. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu en dessous en termes de conception de système multi-énergie, Alain Joffre?
Oui, effectivement, on parle beaucoup de systèmes hybrides hein, qui font appel à différentes technologies, par exemple des systèmes de production thermique traditionnels, au gaz avec des centrales thermodynamiques solaires, mais aussi des applications bois-énergie, par exemple, avec d'autres applications qui peuvent se compléter. En fait, si vous voulez, ce qui se produit aujourd'hui, c'est que il faut considérer que le réseau électrique est un marché global dans lequel on a souvent parlé dans le passé de bouquet énergétique. Et en fait, si on considère que, par exemple, l'électricité solaire produit quelques pourcents de la production d'électricité, en fait, dans le secteur des bureaux, par exemple, on va écrêter la pointe de midi, ce qui va correspondre à un allègement. Dans le midi méditerranéen, la pointe de consommation, maintenant, elle est pratiquement l'été, et elle est due à la climatisation. Donc, si on produit beaucoup dans cette période de l'année, ça va être favorable et ça va permettre de coïncider à des périodes de forte consommation. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, un mot sur les centrales thermodynamiques, parce que, et puis plus généralement, la recherche, en fait, sur les énergies renouvelables, parce que je voudrais pas que le tableau soit, ait pu apparaître un peu trop noir. En fait, dans les Pyrénées, on a à plusieurs reprises parlé de la centrale thermodynamique de Témis, qui renaît de ses cendres aujourd'hui, grâce au Conseil général des Pyrénées-Orientales, et puis également à la région Languedoc-Roussillon. Et en fait, cette plateforme aujourd'hui va accueillir, avec le four solaire d'Odeillo, des équipements nouveaux, des entreprises qui veulent développer des concepts nouveaux. Et nous avons aujourd'hui, avec le pôle de compétitivité d'Herby, une dizaine de projets industriels qui sont en cours de développement sur le site, dont le projet de M. Benmaraz, qui trouvera sa place dans la Cerdagne, qui, rappelons-le quand même, est la région d'Europe la plus ensoleillée. Il y a plus d'ensoleillement sur le plateau de Cerdagne, près de Font-Romeu, que dans le sud de l'Espagne. Et ça mérite quand même d'être reconnu, parce que Absolument. Nous avons la qualité du gisement solaire pour pouvoir faire une expérimentation de grande qualité.
Absolument. Cédric Philibert, sur cet avenir d'un mix énergétique en quelques mots.
Oui, alors vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut jouer les complémentarités, et notamment les complémentarités d'abord entre énergies renouvelables. On peut distinguer trois groupes de pays, si vous voulez. Les pays chauds et secs, on va faire beaucoup de thermodynamique avec du stockage dans des selles fondues ou d'autres technologies sous forme de chaleur avant de produire l'électricité. Les pays chauds et humides, où on va avoir à la fois beaucoup de solaire plutôt photovoltaïque, sans stockage, mais aussi probablement beaucoup d'hydraulique, parce qu'il y a encore beaucoup de réserves d'hydraulique dans les pays chauds et humides par définition. Et puis vous avez les pays tempérés à froid. Et là, la complémentarité principale, ça va être entre le solaire et le vent. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, en hiver, on a moins de soleil, mais on a beaucoup plus de vent. Et on va avoir un mix avec plutôt un peu plus de vent que de solaire. En été, on utilisera le solaire, en hiver, le vent. Et pour le stockage, on aura, je crois, des stockages d'électricité sous forme de stations de pompage hydraulique, qui peuvent être très fortement développés. Il y a 100 000 mégawatts dans le monde aujourd'hui, mais on peut en faire beaucoup plus.
Merci beaucoup. Malheureusement, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci d'y avoir participé à Marc Benmaraz, André Joffre, Cédric Philibert et Franck Le Borgne, à qui nous souhaitons de pouvoir mettre un terme le plus tôt possible à sa grève de la faim et à se rétablir rapidement. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant plusieurs mois et la podcaster pendant une semaine. Il s'agissait de la dernière émission de la saison pour Sciences Publiques. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances en espérant que le soleil soit au rendez-vous, au moins pour le mois d'août. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le 2 septembre pour une nouvelle émission de Sciences Publiques que nous consacrerons aux technologies vertes et à leurs perspectives économiques, l'occasion de redire un mot de l'énergie solaire. Sciences Publiques, Brigitte Mazire, Catherine Donnet, Michel Alberganti.